Pourtant, ils sont aujourd'hui reconnus comme fondateurs de la pensée moderne. Découvrez, avec le journal Le Monde, les livres qui ont changé le monde. Présenté chaque jeudi sur France Inter, dans le 5-7 d'Olivia Gesbert.
France Inter, la différence.
Il est 15h04 sur Inter, c'est l'heure de l'émission Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour, alors les enseignants, vous avez compris, ça a été dit clairement aujourd'hui. Vous êtes des fonctionnaires et vous êtes aux ordres et vous devez lire la lettre de Guy Môquet. Alors moi, si j'étais enseignante, parce que je ne suis pas enseignante, c'est bien dommage, eh bien je la lirai cette lettre de Guy Môquet et j'insisterai sur des passages particuliers. Je vous laisse vraiment la fantaisie de les trouver tous, mais deux exemples en particulier. J'insisterai sur le fait qu'il a été communiste, qu'il avait un engagement politique très clair. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout. Et d'autre part, quand il fait allusion à sa mort et qu'il espère qu'elle va servir à quelque chose, eh ben je ferai une extension avec France Télécom et avec d'autres sujets qui sont plus d'actualité. Voilà, et je profiterai au maximum de cette lettre. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci, Monsieur le Président. Dans la série « Dans quel monde vit-on ?», je vois placardé sur le flanc d'un bus ce matin le slogan suivant « La guerre comme si vous y étiez ». C'était pour un jeu vidéo. Aurélie de Paris. Bonne journée.
Bonjour Daniel, c'est Anne de l'Isère. Je voulais te dire que j'étais super contente d'avoir enfin entendu dans une émission d'une heure un nombre incroyable de fois le mot décroissance. Ça fait quelques mois que la décroissance, le mensuel, en appelle à toi désespérément, de façon très claire, en te qualifiant de je sais pas quoi, mais de façon très positive en tout cas, en disant mais enfin quand est-ce que Mermet va s'intéresser à la décroissance, ça y est, Mermet s'est intéressé à la décroissance au travers du lot, c'est très très bien. Voilà, enfin je suis très contente parce que je suis très fidèle à la décroissance et puis à toi. Et je me demandais quand est-ce que tu allais nous rendre François, parce que moi François me manque. Alors si François voulait bien refaire 2-3 petites émissions, ça serait pas mal. D'autant que j'arrive absolument pas à acheter Fakir et que je ne le trouve pas. Voilà, merci, au revoir.
Bon, bah écoute, Hulot n'est pas le tartuffe que vous dénoncez, car il assume sa stratégie. Se faire financer par les multinationales polluantes, mais rester libre dans ses critiques. Il lutte de l'intérieur quand d'autres luttent de l'extérieur. La différence est dans l'angle d'attaque, mais la défense et de l'écologie et des répercussions sur l'humanité restent entières et sincères. D'ailleurs, tu le reconnais dans tes reportages. Sa stratégie porte ses fruits, car il est bien l'un des seuls être entendu et par les politiques et par la majorité des citoyens. Hulot a largement contribué en France aux prises de conscience. Ensuite, ton débat tourne dès les premières émissions sur le monde divisé en deux, l'écologie avec le capitalisme ou sans le capitalisme, et vous avez tous quelques difficultés à imaginer une troisième voie à inventer qui éviterait si possible de diviser en deux camps cette humanité qui n'a vraiment pas besoin que les dominés d'hier deviennent les dominants de demain, qu'une guerre civile oppose les radicalités de chaque camp. Enfin, Hulot, conscient de ce danger, prend du recul, invite à une prise de conscience universelle. Cette sagesse est à mettre à son crédit, et n'oubliez pas qu'il lutte de l'intérieur avec le soutien massif de nos concitoyens, ce qui lui permet d'influencer les multinationales jour après jour, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. On peut se poser la question de qui est pris en otage. Donnez un droit de réponse en direct, Nicolas Hulot ne vous décevra pas. Salut Daniel.
Ouais, salut Daniel, ils viennent de voir là, ton répondeur et les gens disent oui, on a pris conscience, ou c'est pour la prise de conscience du problème écologique, mais prise de conscience de quoi? On culpabilise la société pour une société de consommation qui nous a été imposée depuis grosso modo 50 ans par l'industrie agrochimique, pétrolière et compagnie qui nous vend de leur merde, qui ont fait du business sur notre dos, qui nous ont pas proposé d'autres alternatives. Et aujourd'hui, on nous demande à nous de changer. Et changer quoi? On peut rien changer, on peut choisir juste entre ce qu'on nous propose et ce qu'on nous propose. Alors au final, c'est toujours les mêmes qui se font du blé, parce qu'aujourd'hui, c'est cette même industrie agroalimentaire, pétrochimique et compagnie, qui se fait du pognon en revendant des quotas sur le carbone, en faisant des pseudo-produits bio importés de l'autre bout du monde, sur notre dos. Moi, j'ai mes enfants qui sont à l'école, qui sont tout petits, et qui se culpabilisent de laisser la lumière allumée parce que... parce qu'on va polluer, ou de laisser le frigo ouvert 30 secondes de trop parce qu'il pollue. Il faut arrêter les conneries, quoi. Nous, on est responsable de rien, on subit uniquement une société qu'on nous a imposée. Voilà. À très bientôt. Courage.
Écoutez, je suis très en colère. Je voulais laisser ce message. Le MEDEF, les patrons, mais c'est pas beau de frauder. L'IUMM, tout l'argent là, c'était pour les employés, cet argent-là. C'est un scandale. Je suis en colère d'entendre tous ces spots sur France Inter de ministère du budget là. C'est pas bien de frauder, c'est pas bien de se mettre en arrêt maladie, c'est pas bien. Quelle honte d'entendre des spots comme ça. On se croirait, c'est du pétinisme. Entendre ça toute la journée, il y a des fois j'ai envie de fermer le poste tellement ça me met en colère. Bon courage à l'équipe, continuez, j'espère que vous allez faire une émission là-dessus et que vous allez récolter des témoignages parce que franchement, ça donne la nausée ce truc-là.
Après l'émission, il y avait la réclame sur le Berry, maintenant c'est la fraude sur les arrêts de maladie. Alors je propose que nous, les feignants qui n'avons rien d'autre à faire que d'écouter cette émission, on aille frauder dans le Berry. On soutiendrait la filière du crottin de Chavignol avec nos indemnités. On servirait enfin quelque chose. J'appelle tous les malins, tous les ristourneurs, tous les profiteurs à se retrouver dans ce haut lieu des valeurs de résistance, très centre, très France. J'attends avec impatience les nouveaux spots mobilisateurs. Ici Radio Nantes, à vous Paris.
Eh oui, bande de parasites, tir au flanc, larves humaines, profiteurs qui d'abord écoutaient cette émission à cette heure-là, ce que vous ne devriez pas faire parce que vous fraudez l'assurance maladie, vous abusez de l'assurance maladie en prolongeant indûment vos arrêts de travail. Eh bien, prenez garde, cette émission va vous mettre en garde. Il va falloir maintenant redoubler de ruse. Bande de parasites, le médecin de Medivérif peut frapper à votre porte à l'improviste. Toc, 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 c'est pour un contrôle médical. Nous revoilà avec Medivérif qui avait avant, bien avant la publication, la diffusion de ces spots, pensé à lutter contre ces épouvantables fraudeurs. Merci de vos messages, chers AMG. On reviendra sur le débat autour de, sur le thème évidemment de l'écologie. C'est un thème qui vous passionne et qui nous passionne aussi. Mais aujourd'hui, nous allons lutter contre les fraudeurs. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale verte de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, venez parler de tout, mais certainement pas de rien, ce samedi 24 octobre au Café Repère de Marly-le-Roi dans les Yvelines, qui se tiendra comme d'habitude au bar-restaurant Le Fontenelle, 30 rue de Fontenelle à Marly-le-Roi, à partir de 17h. Merci, venez nombreux.
Salut, le repère de Berlin se réunit ce soir à 19h30 à la brasserie du Chardon, comme d'habitude. Ce soir, on parlera du fichage. Alors, si vous avez envie de venir partager avec nous, on vous attend. Je vous rappelle que vous pouvez ramener votre casse-croûte, on fait ça leur sac, comme ça, c'est encore plus convivial. À ce soir.
Bonjour, pour rappel, le deuxième café repère d'Alban dans le Tarn se déroulera ce jeudi 22 à 20h30 au bar Tabac chez Marco. Le sujet du jour, la pandémie. Pandémie, vaste fumisterie, réalité et mensonges médicaux, stratégie politique, créer la peur, couler la sécurité sociale, financer les labos, justifier les contrôles des libertés. Des intervenants extérieurs seront présents. Vous avez des idées, des constats, venez en débattre, nous éclairer. Ce jeudi à Alban, chez Marco. Merci.
Si tu cherches un repère, pas de mystère, pas de mystère. Si tu cherches un repère, c'est que tu ne veux plus te taire. Hier soir, débat sur la 3, concilier environnement et économie de marché. Yann Arthus Bertrand, il était là, et la patronne de Veolia. Il y avait le patron de Powewo, une green business cliché bobo, un ingénieur illuminé, que c'est beau l'unanimité. Si tu cherches un repère, pas de mystère, pas de mystère. Si tu cherches un repère, c'est que tu ne veux plus te taire. Ce soir, 20h à Brignoles, à l'Oasis. Demain soir, à 19h, chez Hervé aux Estérés du Lac à Montauroux. Viens prendre la parole. Dimanche, repas de soutien au Nouveau Journal, à 12h, soupe aux pistes ou au domaine de Tassy à Tourette. Ciao, viva, portez-vous bien.
Oui, bonjour Daniel et sa compagnie. Donc, je suis Anne Moussin, donc un Marocain, de Beauvais, dans l'Oise. Et je suis solidaire avec ce dessinateur, Khalid, Parce qu'en s'attaquant à Khalid, c'est on s'attaque à la liberté et la liberté d'expression. Merci d'avoir fait passer ce message. Moi-même, je suis solidaire de ce dessinateur. Voilà, merci pour ton action, Daniel et compagnie. Merci, au revoir.
Merci pour ce message. Bah, vous n'êtes pas le seul à soutenir Khalid Guédard, ce caricaturiste marocain menacé de lourdes peines. Il y avait une manifestation ce matin devant l'ambassade du Maroc, une centaine de personnes, ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis de partout, ça se mobilise, chez les dessinateurs, chez le public, tout simplement. Et on va en apprendre un petit peu plus rapidement. On a joint le directeur du magazine en ligne Bakchiche, Nicolas Beau, qui a employé Khalid Guédard dans les colonnes de son journal. Nicolas Beau. Nicolas Beau, bonjour. Vous êtes le directeur de Bakchiche. Bakchiche est partout. Bakchiche est dans les kiosques chaque semaine. Bakchiche est en ligne. Mais l'un des dessinateurs de Bakchiche, Khalid Guédard, lui est très inquiété. Khalid Guédard, il faut le rappeler, est un dessinateur marocain et qui est poursuivi devant les tribunaux de son pays pour outrage à l'emblème national et manquement au respect dû à la famille royale. Nicolas Beau, vous êtes donc complice de ces outrages-là?
Oui, et on est fiers d'être complice de ces outrages-là parce que Khalid, c'est le plus ancien dessinateur de Bakchiche, est avec nous depuis plus de 2 ans. Et en fait, il a dessiné une bande dessinée sur le roi du Maroc, Mohamed VI, au printemps dernier, des planches, une 25 à 30 planches qui sont parues dans Bakchiche. Et on avait su à l'époque, ça avait beaucoup énervé le palais royal, d'autant plus que pendant l'été, Khalid avait fait savoir qu'il voulait en faire un livre de BD et qu'il avait l'intention de le publier. Et donc, en fait, les autorités marocaines attendaient l'occasion pour essayer d'éviter une telle parution.
Mais là, c'est grave quand même, hein. Il risque 3 ans de prison, 270 000 euros d'amende. C'est quand même énorme. Et il n'est pas le seul. Il y a toute une série de journalistes et de caricaturistes marocains qui sont, eux aussi, en mauvaise posture.
Oui, parce que le Maroc était un pays certainement comparé à ses voisins du Maghreb, un pays où il y avait un espace pluraliste avec 5-6 titres arabophones, francophones, où il y avait une marge de manœuvre pour les journalistes. Bon, c'était une bagarre incessante, mais ils arrivaient à publier des infos, mais chez nous aussi, c'est une bagarre incessante de publier des infos. Et très nettement, là, depuis l'été, il y a une volonté du pouvoir marocain de refermer le couvercle et que, surtout, là, il n'y ait plus de presse qui ait des velléités d'indépendance.
Alors, RSF s'est mobilisé. Le dessinateur du quotidien Le Monde, lui aussi, s'est mobilisé. Ça se mobilise quand même.
Il y a beaucoup de dessins qui arrivent sur le site. Dans le prochain hebdo de Bakchiche, on peut voir 2 pages entières de dessins de soutien. Il y a les Amis du Canard aussi, Vochniak, Cabu. Enfin, il a vécu longtemps en France, au Maroc, Khalid, seulement depuis 6 mois. Et en fait, il connaît évidemment tous ses amis dessinateurs qui se mobilisent, y compris à New York et au Canada.
Voilà, c'est la nouvelle affaire des caricatures.
C'est une affaire, en tout cas, qui est grave, parce que le droit de caricaturer les chefs d'État, je pense que des deux côtés de la Méditerranée, on doit évidemment le défendre. Et on baigne quand même entre le Maghreb et la France dans une culture commune, au fond. Sauf qu'en face, on oublie quelquefois qu'il y a des régimes, quand même, quoi qu'on puisse penser des régimes dans lesquels on vit ici en France, il y a des régimes là-bas qui ont pas du tout la même conception de la liberté d'expression que nous, on peut avoir de ce côté-ci.
Mais Khalid Guédard doit être tranquille, il va être soutenu, n'en doutons pas, par le président de la République française qui avait déclaré « Je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature », par exemple, ou bien par Bernard Kouchner qui est partisan de l'ingérence. Et bien là, c'est de l'ingérence. Et puis surtout, celui qui va faire le nécessaire, Khalid Guédard, ne doit pas s'inquiéter. C'est évidemment BHL, Bernard-Henri Lévy, dont on connaît la somptueuse maison au Maroc et qui, au cours de son prochain voyage, ne va pas manquer d'intervenir, lui qui est attaché à la liberté, notamment la liberté d'expression et la liberté de la presse. Un grand reporter comme lui et foncièrement attaché va sans doute intervenir. D'autres appels, d'autres témoignages, celui de Plantu, le dessinateur, l'un des dessinateurs du quotidien Le Monde, et puis Khalid Guédard lui-même. Vous êtes complice de manquement au respect dû à la famille royale.
Oui.
Et vous doute. Êtes impliqué dans un outrage à l'emblème national.
Sans doute.
Ben voilà. Alors expliquez-vous, mon cher Plantu, parce que c'est de la nouvelle affaire des caricatures. Vous prenez la défense de ce rallye de Guédard qui risque 3 ans de prison et 270 000 euros d'amende dans son pays, qui est le Maroc. Qu'est-ce que vous avez pour sa défense à nous dire ?
Alors, ça dépend comment on se situe. Quand on se situe en tant qu'artiste et qu'on se dit, il n'y a aucune raison qu'un artiste s'empêche d'exprimer en images, en peinture, en musique, ce qu'il a envie de dire, à ce moment-là, moi je considère qu'il faut toujours soutenir les artistes, soutenir les journalistes, soutenir les caricaturistes. Là, c'est un caricaturiste qui fait des dessins assez rigolos et assez jouissifs, et à la fois au Maroc et aussi sur Bakchiche en France. C'est un dessinateur qui a le courage, parce que c'est pas facile de faire. C'est facile de faire le dessin du roi du Maroc, Mohamed VI, depuis Paris, moi je risque rien. Quand Khalid fait le dessin du roi du Maroc et qu'il est à Casablanca, alors là, il prend des risques incroyables parce que, et ça je ne le savais pas, je le sais que depuis une dizaine d'années, à partir du moment où des personnes représentent en image le roi, il est considéré à tort ou à raison, mais c'est comme ça que les gens le vivent, comme un sacrilège de faire le roi. Nous, faire le fils du roi en France, Jean Sarkozy, c'est considéré aussi comme un sacrilège et un blasphème.
Oui, mais on n'a pas 3 ans de prison encore, quand même. On ne risque pas 3 ans de prison et 270 000 euros d'amende, sinon vous me parleriez du fond de votre prison, là.
Exactement, quoique des fois, Sarko, il envoie des gendarmes. C'est très impressionnant de recevoir un gendarme de Sarko. Bonjour, monsieur, j'ai une lettre de Sarkozy, ça fait toujours un drôle d'effet, mais heureusement, il se trouve que, et c'est pas toujours le cas de par le monde, j'ai la chance, que ce soit dans le Monde ou dans l'Express, d'être protégé par des directeurs et des rédacteurs en chef. C'est pas toujours le cas dans d'autres endroits, et des fois, les rédacteurs en chef se cachent. Je me souviens d'un Foratini, qui est un dessinateur italien. Il avait fait un dessin qui défendait les Palestiniens à tel point qu'il avait été considéré comme antisémite, et le rédacteur en chef s'est cassé. Enfin, je veux dire, il l'a pas protégé. Et donc, Foratini, le dessinateur de Milan, il s'est retrouvé tout seul. Et c'est bon pour un dessinateur de savoir qu'il y a des gens, des dessinateurs, d'autres caricaturistes qui pensent à lui. Et moi, je pense à Khalid Guédard.
Khalid Guédard, on vous appelle, là, vous êtes à Casablanca ?
Oui, je suis à Casablanca.
Alors racontez-nous un petit peu ce qui vous arrive, là. Pour un dessin publié dans Akbar Alioum, vous voilà poursuivi devant les tribunaux marocains. Vous risquez une peine de prison de 3 ans et 270 000 euros d'amende. C'est les informations que j'ai. Est-ce que c'est vrai ?
Pour la prison, je risque entre 1 an et 5 ans.
Entre 1 an et 5 ans pour un dessin ?
Oui. Pour le premier procès, parce qu'on a 2 procès. Le premier procès est porté par le ministère de l'Intérieur. Mmh. Et l'accusation, c'est l'outrage du drapeau national.
Outrage du drapeau national ?
Oui. Là où je risque entre 1 an et 5 ans. Le deuxième procès, c'est le procès qui est porté par le prince Moulay Ismaïl. Et l'accusation, c'est l'atteinte d'une personne, d'un membre de la famille royale. Et lui, il demande dommages et intérêts, 3 millions de dirhams. Ça veut dire, c'est environ 270 000 euros.
C'est invraisemblable.
Oui, exactement. Je vais raconter un peu l'histoire. En fait, le journal, elle a fait un dossier sur les traditions et les coutumes dans les mariages des Alaouites. C'était à l'occasion du mariage du prince Moulay Ismaïl avec la fille allemande.
Une femme allemande,
en fait,
oui.
À l'occasion du mariage, le journal a préféré faire un dossier de 4 pages sur les traditions des mariages Alaouites. Et en fait, à l'occasion, moi, j'ai préféré de faire un petit dessin, mais avec modération. Parce que dessiner un membre de la famille royale, c'est un tabou toujours. C'est parmi les lignes rouges, on peut dire, au Maroc. C'est un sujet très sensible, etc., etc. C'est pour ça, moi, j'ai préféré de faire un dessin, mais avec modération. J'ai essayé de ne pas être, on peut dire, sévère dans le dessin d'une manière caricaturale. Vous avez vu le dessin, il ne porte aucun manque de respect. C'est un portrait très simple qui montre un prince sur la Maria, derrière lui un drapeau marocain.
C'est-à-dire qu'il est interdit de représenter des membres de la famille royale et il est interdit de représenter aussi le drapeau.
Non, le drapeau, il n'y a pas de problème. Mais le vrai problème dans notre affaire, c'est le prince. Ça, c'est clair, parce qu'il n'accepte pas qu'un membre de la famille royale soit en caricature. Normalement, la loi au Maroc, elle interdit juste de dessiner le roi. Ah. Et comme lui, il n'est pas le roi, c'est un prince, et on a le droit de le caricaturer, en fait. Nous, on l'a compris. Maintenant, le régime, il est en train de faire le bras de fer avec la presse indépendante. Donc, en plus de ça, il est en train d'exécuter la presse indépendante parce que il y a beaucoup de procès contre les journalistes, il y a beaucoup de procès contre les journaux indépendants. C'est pour ça, comme ils n'ont jamais trouvé un argument judiciaire pour nous suivre dans la justice, ils ont inventé certains trucs comme l'étoile David et tout ça pour juste prouver comme quoi le dessin est contre. Le dessin, il sort, ils ont interdit notre journal, ils ont fermé les locaux, ils ont gelé les comptes bancaires du journal.
Ah, ils ont fait fermer le journal ?
Oui, ils ont fermé, le journal est toujours fermé. Ils l'ont fermé, mais en jugement. Mais aucun argument judiciaire, même pas un papier qui prouve comme quoi que le ministère de l'Intérieur, il a interdit le journal. Le lendemain, la police, elle débarque devant les locaux, il interdit tout le monde d'accès aux locaux. Ça arrive une situation que le régime marocain, c'est un régime qui n'accepte pas le critique, qui n'accepte pas ce qu'on appelle la presse indépendante, parce qu'après 10 ans, le nouveau roi, qui est toujours à la et les slogans, la liberté d'expression, la nouvelle ère, la transition démocratique, bien après 10 ans, il prouve le contraire, parce que c'est un régime totalitaire, il est contre la presse indépendante, il est contre les journalistes, il est contre le destin. Maintenant, le jour de l'interrogatoire qu'on a resté chez la police pendant toute la nuit, de 3h d'après-midi jusqu'à 4h30 le lendemain, ils m'ont sorti toute mon histoire dans des autres journaux, comme le site satirique de Bakchich, il m'interroge sur les dessins que j'ai fait sur le roi, sur Bakchich, sur le courrier international. Ça prouve que le dessin que j'ai publié dans Akhbarium, mais c'était un règlement de compte. Ils m'ont sorti tous les dessins que j'ai fait dans la presse étrangère, que j'ai critiqué le roi ou j'ai critiqué le régime marocain. Ça prouve que le régime marocain, il n'a pas la volonté d'accepter la presse indépendante.
Khalid, donc le scénario, c'est que l'audience, c'est demain ?
Oui, c'est demain, c'est vendredi. Oui.
C'est vendredi, il y a une audience.
Il y a deux audiences demain.
Oui.
Il y en a le premier à 9h et le deuxième à 1h.
D'accord. Bon, ouais. Bah écoutez, on suit l'histoire. Hein, vous avez vu qu'il y a un dessin de Plantu là, dans Le Monde aujourd'hui ?
Oui, parce que oui, c'est mon copain, c'est un ami en fait. Bah, il m'a contacté pour faire un dessin et c'était très gentil. C'est la solidarité totale d'un dessinateur à l'autre. Il me soutient jusqu'au bout, il nous défend notre droit de la liberté d'expression.
Ok, Khalid, on se tient informé. Évidemment, je vous souhaite bonne chance.
Merci.
À bientôt, à très bientôt, j'espère.
Voilà, on suit cette affaire, mais surtout on suit l'affaire aujourd'hui de la fraude. Nous allons ensemble jusqu'à 16h. Chers auditeurs, modestes et géniaux, lutter contre la fraude.
Qu'est-ce que vous répondriez à une petite voix qui vous dirait
« T'en as ras-le-bol de ton boulot en ce moment ?» Eh ben prends quelques jours d'arrêt maladie pour te la couler douce, aux frais de la sécu, c'est tout bénef pour toi.
Alors là franchement je ne vais pas m'amuser à ça, parce que c'est fraudé et qu'on a tous à y perdre. Moi parce que je risque d'être lourdement sanctionné par mon employeur, mon entreprise parce que si tout le monde fait comme moi, on va perdre les clients, et c'est toute la société qui en subit les conséquences.
C'est dans l'intérêt de tous que les pouvoirs publics se mobilisent encore davantage pour lutter contre la fraude. Parce qu'agir contre la fraude, c'est agir pour plus de justice.
Ceci est un message du ministère du Budget, des Comptes Publics et du réseau URSSAF.
Les arrêts maladie, ils coûtent chaque année 7 milliards d'euros à la sécurité sociale. Avec 231 millions de jours d'arrêt par an, la France détient le record européen. Un chiffre d'autant plus vertigineux que d'après la CNAM, près d'un arrêt sur 5 est injustifié. Problème, par manque de moyens, la Sécu contrôle rarement les arrêts maladie inférieurs à 2 mois.
Le laisser-aller un petit peu de la sécurité sociale elle-même a tout de même entraîné un développement des contrôles privés faits par les employeurs eux-mêmes.
Ne laissez plus l'absentéisme abusif pénaliser votre entreprise. Contrôle médical, Medivérif.
Bonjour monsieur, c'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec Renaud Lambert. C'est pour un contrôle médical.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est pour un contrôle médical.
Pascal Pascariello et Renaud Lambert sont chefs d'entreprise. Pascal Pascariello et Renaud Lambert sont inquiets. Ils font appel à Medivérif.
Bonjour.
Oui, bonjour, je suis bien à Medivérif.
Oui.
Voilà, j'ai une entreprise. J'ai quelques doutes sur les arrêts maladie de mes salariés.
Moi, j'ai plusieurs salariés qui n'ont pas trop l'esprit à travailler, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, je voulais un petit peu connaître quel est le fonctionnement de Medivérif.
Parce que ça peut m'intéresser.
D'accord. Donc, nous, on se base sur la loi de mensualisation.
D'accord. Donc, on se base sur la loi de mensualisation de 1978.
Qui dit qu'en contrepartie des compléments de salaire que vous versez à vos employés, vous avez un droit de regard sur leur état de santé.
Donc vous êtes en droit de savoir si l'arrêt est justifié ou non au jour du contrôle.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec plus de 3000 médecins sur toute la France. On envoie le médecin le plus proche de chez votre salarié pour effectuer une contre-visite.
Le médecin va se présenter de façon inopinée à son domicile durant ses heures de présence obligatoires pour déterminer si oui ou non il y a une pathologie et si cette pathologie empêche bien le salarié de reprendre son poste.
Et le salarié a le droit de refuser la venue de votre médecin ou pas?
Alors, c'est assez risque et péril, hein, puisque s'il refuse, il est en tort et c'est équivalent à un arrêt de travail non justifié. Il n'a pas droit à son complément de salaire.
Parce que moi, je lui paye, c'est bon, j'ai plus à lui payer, quoi, c'est ça?
Voilà. Ah, oui, et oui. Également, hein, si l'arrêt n'est pas justifié pour une quelconque raison, vous pouvez également envoyer une copie du rapport de notre médecin au médecin conseil de la Sécurité sociale dont il dépend pour qu'il suspende le versement des indemnités journalières sur la même période. Comme ça, ça fait coût double.
Et combien ça me coûte à moi?
95 euros hors taxe.
Plus éventuellement des majorations pour frais kilométriques ou honoraires libres du médecin. D'accord, ok.
D'accord. Ça fait longtemps que vous existez, vous?
2005, il me semble.
Ah, mais donc vous en faites beaucoup, des contrôles?
Oui. De plus en plus, de toute façon, en plus. Hein. Donc, voilà, ça augmente chaque année.
Alors voilà. 13 milliards de paquet fiscal, 10 milliards pour renflouer les banques, et ce n'est pas tout, 374 millions d'euros en 2006. 374 millions d'euros, ça représente la fraude sociale en France. Et la fraude sociale, ce sont les faux chômeurs, les travailleurs au noir et les faux malades. Voilà contre quoi il faut lutter. Bien évidemment, en priorité, les faux malades. Aujourd'hui, les faux malades. Et nous avons décidé, avec Renaud Lambert, de vous présenter ce dossier absolument brûlant et prioritaire. Le contrôle des arrêts maladie. Alors, la Sécurité sociale, évidemment, n'a pas les moyens, assez d'inspecteurs pour contrôler ces faux malades ou ceux qui prolongent leur arrêt maladie. Aussi, voit-on, ces temps-ci, se développer toute une quantité d'officines privées qui font le travail à la place de ces contrôleurs, qui font ce travail et qui, pour cela, eh bien, ont recours à des médecins qui font le travail, qui vont inspecter ces malades ou ces faux malades et qui, bien souvent, vous allez le voir, les remettent au travail. Il en est des médecins comme des banquiers. Vous avez entendu ce précepte, ce conseil de Swift. Jonathan Swift, le génial Jonathan Swift. On va peut-être pas faire aux médecins ce que Swift souhaitait qu'on fie aux banquiers, mais tout de même, il y a là quelque chose d'absolument urgent, amis auditeurs modestes, c'est géniaux. C'est jusqu'à 16h, c'est la base si j'y suis, c'est pour un contrôle médical.
C'est pour un contrôle médical.
Je veux des maladies d'importance, de bonne fièvre continue avec des transports au cerveau, de bonne fièvre pour près, de bonne peste avec hydropisiforme, de bonne pleurésie avec inflammation de poitrine. C'est
c'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes ces maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins désespérés à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service.
Je vous suis obligé, monsieur, pour toutes les bontés que vous avez pour moi.
Donnez-moi votre peau, allons donc que l'on batte comme il faut. Oh, je vous ferai bien aller comme vous devez. Oh, ce pou-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin?
Monsieur Purgon.
Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes. Entre les grands médecins, de quoi dit-il? Que vous êtes malade?
Et il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate.
Ce sont tous des ignorants. C'est du pognon dont vous êtes malade.
Bonjour monsieur, il s'agit d'un contrôle médical.
Docteur Ernaud, médecin Medivérif.
Vous êtes bien monsieur, je vais vous dire, vous êtes en arrêt de travail?
Non, non, pas de travail.
Tanushan.
Tanushan.
C'est là?
Oui.
Bien, on va entrer. Pardon.
Tanushan.
Bonjour monsieur, je suis médecin et on me demande de vous examiner parce que vous êtes en arrêt de travail. Je fais partie de la société Medivérif. Vous connaissez cette société Medivérif? Je fais ça à la demande de l'employeur, mais je ne connais pas votre employeur et je connais encore moins ses intentions. C'est Geodev. Qu'est-ce qu'on fait dans cette boîte-là?
Travail mécanique normalement.
Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous êtes-vous arrêté?
Parce que tout le temps il est soudé.
C'est une soudure à quoi? Soudure à l'arc?
Soudure à l'arc, mais tout.
Tout?
Soudé tout le temps.
Toute la journée? Ouais. C'est des grosses soudures ou des petites soudures?
Grosses soudures.
C'est des grosses soudures?
Ouais.
Des grosses poutres?
Ouais. Comme ça, c'est trop mal ici.
Le jeune homme indique son cou.
Et qu'est-ce qu'il vous a donné le médecin comme médicament?
Il a donné...
Allez-y, montrez-moi l'ordonnance du médecin.
Il quitte la pièce pour aller chercher ses médicaments. Le docteur Ernaud en profite pour nous donner le fond de sa pensée.
La douleur alléguée ne me semble pas justifier un arrêt de travail. Voilà, c'est bien. Allergodil, Naxia.
Soudure toute la journée, ça c'est...
C'est ce qu'il semble dire, oui.
Ça fait beaucoup, non?
Eh bien, je ne connais pas véritablement ses conditions de travail. Vous avez tout un dossier, mais vous arrêtez souvent le travail?
Non.
Le jeune homme est revenu avec une liasse de documents. À la lecture, nous apprenons que son employeur rechigne à lui payer ses heures supplémentaires. Pour pousser son salarié à la démission, l'employeur le contraint à des tâches de soudure, sans arrêt, toute la journée.
Il y a un problème et un conflit avec son employeur. Oui, en réalité, je ne veux pas. Oui, je ne veux pas. Alors, au total, monsieur, bon, vous êtes en bonne santé, heureusement. Alors, votre problème, si vous voulez, n'est pas un problème médical. Alors, moi, aujourd'hui, on me pose des questions, je dois dire. Est-ce que l'arrêt est justifié aujourd'hui, ou bien l'arrêt n'est plus justifié? Alors, moi, aujourd'hui, je vais dire, l'arrêt, aujourd'hui, n'est pas justifié. Donc, en conséquence, cela vous oblige à reprendre le travail demain. Alors, donc, je vais cocher. Donc, l'arrêt n'est plus justifié. En conséquence, reprise demain. Voilà, je n'ajouterai rien de plus. Allez, au revoir.
Merci.
C'est pas. Bien.
Alors, là, si ça a un conflit avec l'employeur, il y a quand même un élément qu'à prendre en compte, qui est que c'est l'employeur qui demande une vérification. Est-ce que là, votre visite ne va pas jouer en la défaveur de ce monsieur ?
Je ne sais pas quelles sont les intentions de son employeur. Je ne connais pas ses intentions. S'il a envie de se débarrasser d'un travailleur qui est malade, eh bien, l'employeur serait content que je dise qu'il est en arrêt justifié. Si au contraire, l'employeur souhaite le trouver en défaut, il souhaite que je dise qu'il n'est pas, que son arrêt n'est pas justifié. Mais enfin, moi, je ne sais pas qui a raison et qui a tort. Je ne sais rien. Je peux simplement répondre aux questions qui me sont posées. Aujourd'hui, manifestement, son arrêt n'est pas justifié.
Un créneau porteur. Pour les patrons, la sécurité sociale fait preuve de laxisme dans le contrôle des arrêts maladie. Alors, depuis quelques années, des cabinets privés de ce genre exploitent à fond le filon. Pour cette société de contrôle privé, une contre-visite médicale sur deux débouche sur un arrêt de travail injustifié. Chaque visite est facturée 95 euros à l'employeur. 40 euros pour le médecin, 55 euros pour le cabinet privé. Cette petite entreprise ne connaît pas la crise. En 3 ans d'existence, son chiffre d'affaires a été multiplié par 10, 560 000 euros en 2006.
Bon après-midi, au revoir.
Pourquoi autant d'arrêts maladie sont-ils abusifs ? Qui est responsable de cette dérive ? Les patients ou les médecins ?
Franck Charpentier, patron de MediVérif.
Aujourd'hui, nous sommes au service des employeurs. Si on arrive à résoudre pour le compte de nos clients la problématique liée à l'absentéisme injustifié, pour nous, c'est gagné. On a des clients qui sont on va dire, non pas victimes, mais subissent l'absentéisme plutôt que de le gérer. Bien sûr, ça a un coût pour l'entreprise, d'où aujourd'hui, nous, le service proposé, de pouvoir contrôler ces arrêts maladie. Le principe étant de faire passer un message fort aux salariés en disant on imagine que vous puissiez être en train de tricher, on n'est pas dupes, nous, on peut diligenter des contrôles.
Voilà, Franck Charpentier, patron de MediVérif. Vous avez compris, les archives que vous entendez, c'est l'excellente émission, hélas, défunte de Charles Villeneuve, Droit de savoir, qui, bien avant nous, avait traité ce sujet. Il s'agit, évidemment, vous l'avez compris, de défendre l'entreprise et de lutter contre l'absentéisme.
Franck Charpentier, j'ai 30 ans, je suis gérant de MediVérif. Je suis issu au départ de la grande distribution. J'étais dans un groupement d'indépendants dans une enseigne de la grande distribution.
Donc vous aviez un magasin, vous étiez gérant d'un magasin ?
Tout à fait. Grande surface alimentaire, 80 salariés.
Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez fait appel à MediVérif ou des sociétés comme celle-là ?
Alors, sur certains cas identifiés, avec le recul, j'aurais pu faire appel à ce genre de service, tout à fait. Et puis, j'ai souhaité me réorienter professionnellement sur tout ce qui touche un petit peu à la santé au travail et à la gestion des risques, et notamment de l'absentéisme en entreprise, qui est un vaste sujet.
Alors, voilà, imaginons, moi, je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce que je peux attendre comme bénéfice de votre intervention ?
Alors, il y a quand même un impact psychologique fort lorsqu'on met en place les contrôles. Aujourd'hui, il y a énormément de salariés qui ne savent pas qu'ils peuvent être contrôlés. Les premiers collaborateurs qui vont être contrôlés, ça va faire très très vite le tour. J'ai en tête l'exemple d'un client qui a des salariés qui travaillent sur beaucoup de sites, même éloignés. Le premier contrôle a eu lieu, le soir même, tous ses collaborateurs quasiment savaient qu'ils pouvaient faire des contrôles. Donc il y a eu un impact psychologique immédiat. Alors, quand un client fait appel à nos services au début, il y a une tendance à avoir plus d'injustifiés. Et puis, si vous voulez, au fur et à mesure qu'il utilise nos services, forcément, comme ces salariés ont tendance à savoir qu'ils vont être contrôlés, ont tendance aussi à moins tricher. Donc, les clients, au bout d'un moment, n'ont quasiment plus que du justifié. Pour nous, c'est gagné. Ça veut dire que, effectivement, le paradoxe, c'est que c'est un client qui aura plus besoin de nos services.
Est-ce que vous avez des pourcentages des contrôles que vous faites chez les cadres, chez les employés ?
Non. On tient absolument aucune statistique sur les salariés.
Vous n'en avez aucune idée ?
Absolument pas.
Parmi ces 3000 médecins contrôleurs, le docteur Ernaud. Aujourd'hui, le cabinet privé l'a mandaté pour contrôler les arrêts maladie de plusieurs salariés de la Poste.
Allô, monsieur Claire ?
Oui.
C'est pour un contrôle médical.
Oui.
À quel étage êtes-vous ?
Premier étage, droite.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?
En fait, il y a une sorte de crise à mon travail, patron-employé, qui a été assez violente, à la suite de laquelle une grande partie de l'équipe, et notamment tous les permanents avec lesquels je travaille, ont été licenciés.
Vous êtes un permanent aussi ?
Voilà, je suis un permanent, mais surtout, je suis le seul, en fait, à avoir un CDI. Et donc, en gros, c'est les choses classiques d'intimidation, de flicage et de on vous enlève du travail, on vous met pas au courant des nouvelles choses. Donc je suis allé voir un médecin pour qu'il me donne quelque chose pour me calmer et pour pouvoir dormir.
Alors comment vous appelez donc cet état, c'est ce comportement de votre employeur? Il y a un mot pour dire ça à votre avis?
C'est une sorte de harcèlement, oui.
Donc vous avez dit harcèlement. C'est le mot que j'attendais d'ailleurs. Je préciserai moral.
Voilà.
Alors, le harcèlement, comme vous le savez, autant que moi, sinon plus, est un problème judiciaire. Voilà, tout est dit. Alors, je vous dis tout ça pour que nous soyons bien d'accord là-dessus. Vous êtes jeune, vous avez l'air en bon état, vous ne prenez pas de médicaments. L'Exomil, les gens prennent ça à titre, sur un mode, tout en vaquant à leurs occupations.
Moi, je suis quand même... Ouais.
C'est un problème typiquement judiciaire. Alors, si je mets que l'arrêt est justifié médicalement, votre employeur va dire, mais ce monsieur-là, il n'est pas valable, il a des maladies, vous voyez. L'arrêt n'est plus justifié. Bon, on va mettre reprise anticipée, de toute façon, vous reprendrez lundi.
Franck Charpentier, patron de Midi-Vérif.
La contre-visite, c'est une chose. J'ai effectivement des clients qui s'en servent comme outil très coercitif. J'en ai bien conscience, tout à fait.
Vous avez des cas de ça, alors ?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, je me doute bien que la plupart font du contrôle ciblé. Aujourd'hui...
Donc concrètement, l'outil que vous proposez est un outil... Donc vous dites que dans la majorité des cas, utilisé comme outil de coercition ou de pression sur le salarié.
Si vous voulez, le monde de l'entreprise, quoi qu'on en pense, est soumis du part et d'autre à des droits et des devoirs réciproques. Il y a des outils qui peuvent être coercitifs comme le contrôle médical, mais un outil coercitif me semble, moi, à mon avis, je ne vais pas dire indispensable, mais il faut qu'à un moment donné, on connaisse bien les règles. Mais
pour reprendre l'image que vous donniez du monde de l'entreprise dans laquelle le chef d'entreprise et les salariés ont à la fois des droits et des devoirs, est-ce que dans l'état actuel des choses, le dispositif de la contre-visite médicale n'augmente pas les droits des uns et les devoirs des autres ?
Est-ce qu'il y a un réel déséquilibre entre le pouvoir de la contre-visite de l'employeur et les recours du salarié ? Aujourd'hui, à mon sens, pas si évident que ça. Moi, j'ai repris cette activité il y a un an, je connaissais pas, hein, donc ça fait un an et demi que je connais, loin de moi l'idée de me dédouaner ou quoi que ce soit. Simplement, ça m'a permis de voir qu'il y avait effectivement autre chose derrière. Et certains constats que vous faites, je les ai faits moi-même. Je dis, effectivement, s'attacher juste à contrôler la personne qui est absente, ça suffit pas dans certaines entreprises. Ou dans certains cas, ça peut pas suffire. Est-ce que on met pas le doigt sur quelque chose de plus... Je ne vais pas dire plus grave, mais de quelque chose de plus important, plus profond dans l'entreprise. Voilà.
Toutefois, l'un des trois témoignages que vous mettez en exergue, il y en a trois témoignages qui sont sur votre site, l'un d'eux dit, je paraphrase, mais je crois que je suis assez proche, depuis votre visite, ça file droit.
Mais je fais avant tout du commerce quand même. Mon produit, il est là, il faut aussi que je le vende. Hein. Là-dessus, mon entreprise a vocation à se développer, bien évidemment.
Les patients, on est utile pour eux parce que on les force parfois à se rendre compte eux-mêmes de leur propre état. Parce qu'il y en a qui s'incrustent dans une situation de non-travailleurs, ils se plaignent tout le temps et puis ils finissent par obtenir l'invalidité, mais ils sont plus valables pour rien.
Alors, des médecins comme le bon docteur Ernaud, ce brave homme... Il y en a un certain nombre, 3000 médecins quand même. Et puis il y a d'autres médecins comme Isabelle Fortier, qui est conseillère confédérale à la CGT, à la médecine du travail, et qui nous apporte ses éclairages à elle.
Donc Isabelle Fortier, donc je suis conseillère confédérale à la CGT en charge de l'activité travail et handicap et je suis de formation médecin du travail. Ah ben on a reçu un courrier, tous les médecins, j'allais dire, enfin tout au moins dans mon département, mais je crois que c'était sur toute la France, ont reçu des courriers pour demander de devenir médecin contrôleur de l'absentéisme. Alors c'était par des assurances privées, entre autres, hein, moi je peux en citer, hein, il y avait GAN, il y avait AXA, qui contactaient les médecins en leur demandant de devenir médecin contrôleur de l'absentéisme.
C'était quand ça?
Oh, je dirais 3-4 ans à peu près.
Vous avez donné suite ?
Moi, j'ai donné suite, oui, bien sûr, parce que j'étais intéressée, justement, pour faire, j'allais dire, du contre-pouvoir dans ce système-là, et non pas pour gagner de l'argent.
On gagne beaucoup d'argent en faisant ces contre-visites ?
Ah oui, en général, les médecins qui font ça ne font pas ça, j'allais dire, de façon bénévole, loin de là. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup, puisque en moyenne, c'est entre 150 à 200 euros, avec les frais compris, bien sûr, frais de transport, etc.
Alors que lorsqu'on est médecin dans un cabinet conventionné, qu'on fait un déplacement, on peut espérer toucher combien ?
Ça doit être 35 euros, plus les frais de déplacement. En gros, on va dire 50 euros, quelque chose comme ça.
Donc en gros, trois fois plus pour le médecin de contrôle.
Tout à fait, tout à fait. Et je n'ai pas été retenue parce que je n'avais pas la possibilité de recevoir les gens dans un cabinet particulier.
Alors, ça m'étonne beaucoup parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre un médecin qui faisait des contre-visites et c'est lui qui se déplaçait. En fait, il rend service aux gens, il se déplace pour pas qu'ils aient à se déplacer, eux, quoi. C'est plutôt sympa.
Oui, mais la législation, alors c'est vrai qu'il y a un vide juridique à ce sujet-là. Normalement, les personnes n'ont pas à laisser rentrer ces médecins-là chez eux.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a un flou juridique, c'est-à-dire que la loi ne spécifie pas comment ça doit se passer, mais elle ne donne pas finalement le droit au docteur Ernaud, qui est le médecin que moi j'ai suivi, de se pointer comme ça chez les gens, de sonner à leur porte et leur dire bonjour, je vais entrer. Parce qu'en général, c'est ce qu'il fait.
Oui, non. Ça, effectivement, la loi ne prévoit rien, mais il n'a pas le droit de dire je vais rentrer. Il n'a pas de perquisition pour pouvoir rentrer chez des personnes comme ça.
Je suis bien chez monsieur Charlvin.
Oui.
Bonjour monsieur, c'est pour un contrôle médical.
Oui, allez-y. C'est encore le docteur Ernaud qui a reçu la mission de contrôler un nouvel employé de la poste.
Monsieur, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez, monsieur ?
Bah, en fait, j'ai une épitrophilite, donc ça s'est apparu donc, il y a 2 ans presque. Et de temps en temps, la douleur revient, plus ou moins fortement. Donc c'est ici que j'ai la douleur.
Est-ce que vous avez des fourmis dans les doigts ?
Quand je me réveille le matin.
Bien, montrez-moi ça. La pathologie que vous avez, monsieur, est l'une des plus difficiles à juger. Il n'y a aucun critère objectif. Alors, monsieur, j'ai pas beaucoup d'arguments pour dire que médicalement parlant, votre état et votre arrêt est justifié. Je n'ai pas d'argument. Alors, on vous a arrêté à partir du 14, donc avant-hier, jusqu'au 22. Le 22, c'est mercredi prochain. Je trouve que c'est un peu long. Vous avez des douleurs, c'est pas moi qui les sens, mais un arrêt de travail jusqu'au 22 me semble excessif. Reprise anticipée. Nous sommes le jeudi. Le samedi, vous travaillez aussi ? On va mettre samedi, par exemple ? C'est pour un contrôle médical.
Eh ouais, remettre toutes ces feignasses au boulot. Voilà le travail du bon docteur, docteur Ernaud. Alors, on a imaginé quand même un dialogue entre Isabelle Fortier, je rappelle qu'elle est médecin du travail et conseillère confédérale à la CGT, et le patron, Franck Charpentier, patron de Medivérif. Et la rencontre a eu lieu en présence de Renaud Lambert dans les locaux de Medivérif à Luxeuil-les-Bains.
Alors, on a rencontré le patron de Medivérif, Franck Charpentier, et on lui a posé quelques questions sur la législation, notamment sur un point particulier qui est que parmi toutes les situations qui permettent de dire qu'un arrêt de travail n'est pas justifié, donc il y a lorsque la pathologie a disparu...
Il y a la première chose, c'est médicalement injustifié, c'est-à-dire le médecin ausculte le salarié et considère que la pathologie en cause a évolué et ne nécessite plus un arrêt de travail. Donc arrêt médicalement injustifié.
Bon, très bien, lorsque la personne n'est pas présente chez elle au moment où elle est normalement contrainte de l'être.
Il y a aussi le fait que le salarié puisse être absent de son domicile en dehors de ses heures de présence obligatoire. Un salarié doit être présent chez lui de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Bon, d'accord. Et il y a aussi un autre point qui est un petit peu plus étonnant.
Le salarié peut également refuser de se soumettre à la contre-visite, ou alors n'a pas fourni des éléments suffisants dans son adresse pour permettre la contre-visite.
Absence d'indication sur la boîte aux lettres, ou absence de sonnette, absence d'interphone.
Donc dans tous ces cas-là, l'absence est considérée comme injustifiée. Ça veut dire que, légalement, l'employeur est en droit de suspendre le complément de salaire.
Voici donc la question que pose Isabelle Fortier à Franck Charpentier, patron de Medivérif.
Est-ce que les salariés ont l'obligation d'avoir une sonnette à leur porte ? Sur quel texte de loi vous vous basez pour dire que la personne n'était pas présente à son domicile ?
La jurisprudence est très claire là-dessus. Un salarié doit tout faire pour se soumettre à la contre-visite.
C'est quoi le texte de loi qui dit ça ?
C'est une jurisprudence. La plupart sont définies de manière jurisprudentielle.
Ça serait intéressant que vous nous fournissiez ça, parce que franchement, là, on est très très interpellés par rapport à ça, parce que je ne connais pas du tout cette jurisprudence qui oblige effectivement un salarié à avoir un digicode et à avoir l'obligation de pouvoir se mettre en mesure de répondre à quelqu'un qui vient l'interpeller à son domicile.
Vous pouvez nous en donner les références de cette jurisprudence qui...
Je les connais pas par cœur, mais je les ai.
D'accord. Bah ok, alors on prendra un petit peu de temps tout à l'heure pour que vous puissiez nous les donner.
Bonjour et bienvenue à Travail Info Service. Alors, il faudrait appeler donc la délégation à l'information et la communication du ministère.
D'accord.
Service presse ?
Oui, bonjour madame.
Vous pouvez peut-être vous adresser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés directement. Je pense qu'ils peuvent vous renseigner à la CNAM TS. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
Oui. Il faudrait que vous vous renseigniez auprès des caisses primaires.
Caisses primaires. Vous pourriez me donner un numéro de téléphone ?
Bonjour.
Oui, bonjour madame. Je suis à la recherche d'une information.
Ministère du Travail ou sur, je ne sais pas, après, les employeurs se basent bien par rapport à... Au code du travail, ils vont pouvoir vous...
Eh bien, je me suis fait exactement la même remarque que vous, ce qui m'a amené à appeler le ministère du Travail, qui m'a renvoyé vers la Direction Générale du Travail, qui m'a renvoyé vers la CNAM, qui m'a renvoyé vers vous. Vous voyez, mon désarroi.
On ne peut pas le laisser comme ça, ce pauvre Lambert. Il veut absolument savoir la vérité. Alors, on lui a suggéré de se tourner vers Marie-Christine Alperne, avocate spécialisée dans le droit de la sécurité sociale.
Allô ?
Oui ?
Oui, bonjour monsieur, je suis Marie-Christine Alperne.
Ah, bonjour madame. Voilà, je suis journaliste à France Inter.
Oui.
Et je suis à la recherche d'une information que j'ai vraiment du mal à obtenir.
Je vous écoute.
Si, par exemple, le nom de l'employé n'est pas sur son interphone, s'il n'y a pas de sonnette, si on n'arrive pas à entrer chez lui, eh bien à ce moment-là, l'arrêt est injustifié. Et concrètement, l'employeur peut arrêter de verser les indemnités qu'il verse.
Ah bon ?
Oui.
C'est la première fois que j'entends parler de ça. Hein. Pour parler en vulgairement, c'est carrément dégueulasse. Hein. Moi, je suis la jurisprudence en droit de la sécurité sociale, droit du travail et de la sécurité sociale, vous voyez. Mmh. Et je l'aurais vu passer, cette jurisprudence. Ça, à mon avis, c'est tellement injuste. Hein. À mon avis, n'importe quel tribunal ordonnera le versement des indemnités. Hein, parce qu'on ne peut absolument pas s'abriter derrière ça. Mais... Ouais, mais moi, ça m'interpelle quand même. Parce que, déontologiquement, à mon avis, ils sont en plein viol de la déontologie. Hein. Et le directeur, le PDG de cette Medivérif, là, c'est un médecin ou c'est un businessman ?
C'est un type qui a bossé au préalable dans la grande distribution.
Ah ouais, d'accord.
Viol de la déontologie, a dit cette avocate. Il y a peut-être un lézard qui serait intéressant de suivre. On retrouve Isabelle Fortier, conseillère confédérale à la CGT et médecin du travail.
Une boîte comme Medivérif met en avant sur son site internet le fait que voilà, il y a un client très satisfait qui dit voilà, maintenant dans mon entreprise ça file droit, on diminue l'absentéisme. D'autres entreprises du même type vont jusqu'à dire augmentation de la productivité. Donc en fait, ces médecins exercent au service de l'augmentation de la productivité. Mais bon, dans une période de crise financière où la croissance est en berne, c'est plutôt positif ça, non ?
Bah, c'est positif, oui et non, parce qu'on arrive à remettre au travail des personnes qui ne sont absolument pas stabilisées et dont l'état va s'aggraver. C'est-à-dire qu'on prend vraiment la personne pour un outil de productivité, et quand elle est cassée, bah, ma foi, elle s'en va ou on la jette. Hein. Donc c'est pas pour les personnes, bah, pour l'entreprise, c'est peut-être productif, mais pour les personnes, certainement pas, parce que ça aggrave, entre autres, les inaptitudes. Donc, elles sont sorties de l'entreprise, elles se retrouvent au chômage.
Ce que vous décrivez là, c'est un phénomène par lequel, au sein d'une entreprise, la quête de productivité va... Ça va avoir un aspect positif, qui est l'augmentation des profits, donc croissance, c'est très bien, mais ça va avoir un aspect négatif qui a un impact sur la santé des travailleurs, sauf que cet impact, il n'est pas pris en charge par les entreprises, il va être pris en charge, en fait, par la société.
Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Vous avez très bien décrit, c'est tout à fait ça, ça va être pris en charge par la société. Donc, effectivement, les médecins, normalement, doivent s'occuper de la santé des salariés ou des personnes qu'ils soignent, tandis que là, les médecins contrôleurs de l'absentéisme, effectivement, s'occupent de la santé financière de l'entreprise.
Donc on a une privatisation des bénéfices de l'exploitation, en fait, ou en tout cas de l'augmentation de la productivité, et une socialisation des dégâts.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et les médecins, malheureusement, les médecins contrôleurs de l'absentéisme, y contribuent.
Oh, on va pas les lâcher comme ça, les fraudeurs. On les retrouvera demain. Merci à tous. Cédric Lalanne, Pascal Baldassari à la technique, Koye Nguyen et Raphaël Moutet, réalisation, Agnès Lebotte, assistante Catherine Pinto, qui attend vos messages au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Tout ça avant la réclame.
Au dernier tirage, Euromillion a mis en jeu ça. Vendredi, Euromillion vous propose de gagner ça. Près de 59 millions d'euros. 59 millions.
C'est long, hein?
Estimation non garantie des gains, partagé au rang 1, voire règlement.
Euromillion. Il n'y a que Euromillion pour gagner autant de millions.
Française des Jeux.
Monsieur, vous percevez des loyers de plusieurs appartements. Qu'est-ce que vous répondriez à une petite voix qui vous dirait
« Allez, pour une fois, tu peux bien oublier de déclarer quelques revenus. Tes studios à la mer, hein ? Ça couvrira tes charges de propriété. Tu payes déjà assez d'impôts comme ça, non ? »
Alors là, non, franchement, je ne vais pas jouer à ça. Ça s'appelle de la fraude et on a tous à y perdre. Moi et ma famille, à qui ça risque de coûter cher en cas de redressement. Et c'est toute la société qui en subit les conséquences.
C'est dans l'intérêt de tous que les pouvoirs publics se mobilisent encore davantage pour lutter contre la fraude. Parce qu'agir contre la fraude, c'est agir pour plus de justice.
Ceci est un message du ministère du Budget, des Comptes Publics et du réseau URSSAF.
Ouais, mais il y a fraude et fraude. On se retrouve demain à 15h pour la base et j'y suis. Il est 16h01 sur Inter, les infos, Angélique Boin. Salut!
€500 d'amende pour avoir diffusé sur France 3 certaines images du procès Colonna. La Cour d'appel de Paris est revenue sur la relaxe accordée en première instance au rédacteur en chef de France 3 Corse, Charles Frigara. Il va donc devoir s'acquitter de cette amende. Il est interdit de publier des images saisies pendant les audiences. Jean-Marie Messier va devoir s'expliquer, lui, sur des manipulations des cours de bourse et une suspicion d'abus de biens sociaux lorsqu'il dirigeait Vivendi Universal. L'ancien patron est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, tout comme l'ancien vice-président exécutif du groupe, le Canadien Edgar Bronfman. Au chapitre judiciaire, toujours l'enquête sur la mort du petit Grégory. Va-t-elle être relancée 25 ans après les faits? On devrait le savoir très vite. Le procureur général de la Cour d'appel de Dijon, Jean-Marie Benet, tient une conférence de presse en ce moment. Il vient de confirmer que les nouvelles traces ADN découvertes sur les supports analysés n'appartiennent pas aux parents du petit garçon. Deux ADN, l'un féminin, l'autre masculin, ont notamment été trouvés sur un courrier attribué au fameux corbeau de l'affaire. Plusieurs milliers de salariés du secteur de l'industrie défilent à Paris entre Denfert, Rochereau et Bercy. Ils sont 30 000 selon la CGT, 13 000 dit la police. La situation est gravissime selon Bernard Thibault. 20 000 emplois sont supprimés chaque mois, a-t-il dit, dans ce secteur et 300 000 emplois sont menacés. Bernard Thibault, le leader de la CGT. Le Parlement européen a donné son feu vert au plan d'aide de 300 millions d'euros pour les producteurs de lait, mesure approuvée par 367 voix contre 160. Et c'est 20 millions de plus que ce qu'avaient envisagé les ministres européens en début de semaine. Les députés ont également autorisé la Commission à intervenir sur le marché du lait en cas de perturbation importante. Une aide donc à cette filière. Pour le reste, en France, les agriculteurs qui ont manifesté leur désarroi vendredi dernier vont bénéficier d'un plan massif de soutien. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre François Fillon. Son détail sera connu mardi prochain lors d'un déplacement présidentiel prévu dans le Jura. La réponse de la CNIL à ceux qui s'inquiètent de la création de deux nouveaux fichiers de police. Dans un communiqué, la Commission nationale informatique et liberté assure qu'elle usera de ses pouvoirs de contrôle pour éviter toute dérive. Elle veillera notamment à ce que les données qui portent sur l'origine géographique des personnes soient de nature factuelle et objective, qu'aucun référentiel ethno-racial ne soit utilisé. Ces fichiers définissent un cadre juridique à ce qui existait avant les ex-fichiers des renseignements généraux, écrit l'organisme dans un communiqué. Communiqué à l'adresse notamment de ces associations, syndicats et partis de gauche qui sont nombreux à se mobiliser contre ce qui constitue à leurs yeux un risque pour les libertés publiques. Silvio Berlusconi est décidément cerné par les femmes de son pays, déjà empêtré dans plusieurs affaires de mœurs. Le Premier ministre italien en fait l'objet en plus d'une pétition signée par plus de 100 000 italiennes, pétition qui dénonce ses propos sexistes tenus à la télé le 7 octobre. « Vous êtes toujours plus belle qu'intelligente », avait-il dit à l'ancienne ministre de la Famille, une femme de 58 ans.
And now,
System Disc.
Quand quelqu'un me dit « I love you », ça me fait du bien.
Avec Vali.
Et même, il y a une photo un peu suggestive au milieu. Hein,
oui.
Vous allez découvrir.
Sur le dos, sur la console.
Oui, avec un micro dans les mains.
Oh, incroyable. System Disc, le vendredi, de 22h à 23h.
France Inter présente Le Ruban Blanc, un film de Michael Haneke, Palme d'Or Cannes 2009, actuellement au cinéma. 1913, dans un village d'Allemagne, l'histoire des enfants d'une chorale dirigée par l'instituteur. D'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela? Retrouvez Le Ruban Blanc dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
Et pour le moment, il est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Il est 16h05 sur Inter. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui commencent les automnales du Mans, dans la Sarthe évidemment, donc on va pouvoir entendre beaucoup de musique en quelques jours. Il y a en ce moment même à l'université du Maine, campus en musique, un prélude, même plusieurs préludes, ça a commencé ce matin, mais enfin il en reste un qui va se produire à 16h45, un trio de contrebasse à la maison de l'université, donc campus en musique, les membres de l'Orchestre National des Pays de la Loire, ils ont essaimé, les musiciens, ils ont essaimé tout leur groupe dans toute cette université, il y a eu des rencontres, des ateliers de percussion de l'université, il y a eu des ateliers de pratique orchestrale, etc., etc. Et donc le trio de contrebasse à la maison de l'université, je le rappelle. Et puis demain, au Palais des Congrès, il va y avoir l'ensemble Cénoman, et ça s'écrit avec un C au début, hein, c'est un joli jeu de mots, au Palais des Congrès, 20h30, Borodine, Saint-Saëns, le concerto de Dvorak par David Harlay, ça c'est le tout début, et puis l'Orchestre National des Pays de la Loire, qui va se balader, qui va donner des concerts avec son grand effectif, par exemple, le samedi 24 à 17h, Palais des Congrès, 21h, et dimanche 25 aussi à 17h, toujours au Palais des Congrès. On va entendre cet orchestre des Pays de la Loire qui travaille à la fois à Nantes et puis à Angers. Donc c'est une, on ne va pas dire que c'est une double formation, mais enfin ils sont répartis et ils vont même plus loin. Et ils jouent un peu partout et ils ont une belle carrière dans toute l'Europe et parfois dans le monde. Voici tiré de Children's Corner, c'est-à-dire le coin des enfants de Claude Debussy, une petite pièce qui a été écrite pour le piano et qui a été transcrite pour orchestre, s'appelle Gollywog's Cakewalk. Alors, je vais expliquer un petit peu. Le cakewalk, c'est une sorte de danse un peu marchée, et c'était celle des serviteurs, des esclaves en Amérique qui permettait de se moquer un peu des patrons. On s'habillait un peu comme les maîtres en mettant de beaux habits et puis des chapeaux, puis on grimaçait un peu, on se moquait. C'était le seul jour où on avait le droit de se moquer de monsieur et de madame. Ben voici cette petite danse tout à fait sympathique.